Merci d'écouter RFI, 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Jeudi 21 novembre, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de la soirée sur RFI, la session info, pendant 3 heures. Au programme, le décryptage dans 10 minutes. Véronique Rigolet, vous évoquerez la machine Wagner, le groupe russe, cette machine en Afrique.
Oui, Wagner, la puissante machine de désinformation du Kremlin en Centrafrique. Nous en parlerons avec deux des enquêteurs qui, sous la houlette de Forbidden Stories, eh bien, racontent l'histoire de ce journaliste centrafricain repenti qui dénonce les opérations de propagande de la Russie pour mieux discréditer les puissances occidentales en Afrique.
Eh bien, à tout à l'heure, Véronique. Juste après, ce sera le débat du jour sur RFI. À l'heure d'une COP29 qui entre dans sa dernière ligne droite, notre question, sommes-nous aujourd'hui déconnectés de la nature? L'urbanisation dans le monde est grandissante. Comment renouer un lien qui est vital? Réponse dans 30 minutes. 18h temps universel, le grand journal du soir. Ce sera avec Adrien Delgrange. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition de ce jeudi. 19h10, temps universel, enfin, votre session reportage. Accent d'Europe, ce soir en Azerbaïdjan, hôte encombrant de cette COP29. Et puis le grand reportage, Ukraine, après 1000 jours de guerre, le défi de la mobilisation. Mais pour l'heure, à 18h01 ici à Paris, 17h01 entre universel. C'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Et à la une, les protagonistes de la guerre entre Israël et le Hamas, recherchés par la Cour pénale internationale.
Oui, la Cour pénale internationale a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt contre trois personnalités. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Def. Sami Boukhelifa, bonsoir, vous êtes en direct de Jérusalem. Sami, la CPI a émis contre les trois des mandats pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
C'est une décision antisémite, réagit Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien qualifie ces mandats d'affaires Dreyfus des temps modernes, en référence à cette affaire survenue à la fin du 19e siècle en France, lorsque Alfred Dreyfus, militaire juif, est accusé de trahison avant d'être innocenté. Et Benjamin Netanyahou d'ajouter « Mon affaire se terminera de la même manière ». Durant des mois, la simple probabilité que ces mandats soient émis a donné des sueurs froides à Benjamin Netanyahou. Il a fait part de sa vive inquiétude à des responsables étrangers en visite en Israël, a confié récemment à RFI une source diplomatique occidentale. Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense sont donc rattrapés par la justice. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, près de 44 000 morts à Gaza en 13 mois de guerre. Israël n'est pas un État parti au statut de Rome. Autrement dit, l'État hébreu, comme les États-Unis par exemple, ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Aucun risque d'arrestation immédiate pour Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense s'ils ne quittent pas leur pays. Quant à Mohamed Daif, le chef militaire du Hamas, il est déclaré mort par Israël, mais ce n'est pas confirmé officiellement.
Sami Boukhelifa en direct de Jérusalem, merci à vous. Parmi les réactions, celle des États-Unis, le grand allié de l'État hébreu dans la région. Il rejette catégoriquement la décision de la Cour d'émettre des mandats contre des responsables israéliens. La Maison-Blanche s'étonne, je la cite, des erreurs troublantes dans le processus qui a mené à cette décision. Quant au Hamas, les mandats contre les dirigeants israéliens sont pour lui une étape importante vers la justice. L'autorité palestinienne approuve elle aussi. Après Beyrouth, le médiateur américain Amos Hochstein est maintenant en Israël pour négocier un cessez-le-feu au Liban. L'offensive lancée en septembre contre le Hezbollah a fait des milliers de blessés civils. Dans la région de la Bekaa, lourdement pilonnée, le comité international de la Croix-Rouge a ouvert une unité spéciale au sein de l'hôpital public de Zaleh. Reportage de Laure Stéphan.
Les jambes d'Ali, 9 ans, sont emmitouflées sous une couverture. Le petit garçon a la tête bandée. Il a été blessé par des éclats d'obus. Sa moelle épinière a été atteinte.
J'étais derrière une voiture avec un autre petit garçon. Il y avait un lapin blanc que nous cherchions. Puis il y a eu la frappe. J'ai repris conscience à l'hôpital. J'ai un peu mal aux jambes et là où les éclats d'obus m'ont atteint.
Le jour où Ali a été blessé, des secouristes de sa ville, Baalbek, ont été tués dans une frappe israélienne. C'est son père qui l'a amené aux urgences. Dans une autre chambre, Hussein, 14 ans, sa famille avait fui la guerre en Syrie pour la région de la Bekaa.
Il y a eu une frappe, ma petite sœur a été tuée. J'ai eu le mollet gauche cassé en 1000 morceaux. Je vais être de nouveau opéré et dans 6 mois, je remarcherai. Je fais de la rééducation et un psychologue vient aussi me voir.
À côté du lit de l'adolescent, des béquilles, Hussein risque des séquelles à vie. Un autre patient de l'unité adulte a été amputé. Tous sont suivis par Lucia, physiothérapeute de l'équipe du CICR déployée en urgence à Zahle.
Il est très important d'y aller au jour le jour et d'expliquer aux patients « voici ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, on se concentre sur ça ». On doit souligner chaque petit progrès.
De longs parcours de réhabilitation en vue dans l'insécurité de la guerre. Laure Stéphane, de retour de Zahle, RFI.
Dans la guerre Russie-Ukraine, une première en presque 3 ans de conflit. Pour la première fois, et selon les Ukrainiens, les Russes ont tiré un missile balistique intercontinental. Ce missile a une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Il aurait servi pour attaquer la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. C'est un vecteur de la dissuasion nucléaire russe, mais qui peut aussi être équipé d'une charge conventionnelle. Quel est le message et à qui s'adresse Moscou? Élément de réponse avec Stéphane Audran, expert et consultant en risques internationaux.
Il y a une intention de signalement stratégique, forcément. C'est une catégorie d'armes qui n'avait jusqu'à présent jamais été utilisée dans aucun conflit. Et c'est une catégorie d'armes qui, jusqu'à présent, était réservée à la mise en œuvre de l'arme nucléaire. Les missiles intercontinentaux, dans toutes les puissances du monde, ils ne servent qu'à transporter des armes nucléaires. Et donc, le fait que la Russie emploie cette arme pour une frappe conventionnelle sur l'Ukraine, c'est forcément un signalement stratégique. Vu la distance de la frappe et la catégorie d'armes, moi je penche pour une pression maximum sur les Européens, parce que finalement on est dans des portées qui ne menacent pas l'Amérique du Nord. Et donc on est dans cette espèce de vieille logique qui était la même à l'époque de la crise des euromissiles, de volonté de découplage de l'Europe et de l'Amérique. L'arrivée de Trump était un moment propice. Les Russes voulaient réagir sur les autorisations de frappe de missiles balistiques américains sur leur territoire. Et donc là, c'est un moyen finalement de dire à l'Ukraine et à tous les Européens, vous savez, on peut tous vous frapper sans menacer l'Amérique. Si les Américains ne sont plus là pour vous défendre, vous serez tout seul.
Réexplication recueillie par Carlotta Morteo. Interrogée sur ce tir, le porte-parole du Kremlin n'a ni confirmé ni démenti. Et en Occident, on redoute un nouveau palier dans la montée des tensions. À l'image de Londres qui dénonce, je cite, un tir irresponsable et marquant une escalade. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien interpellé à Alger, c'était samedi dernier, mais on apprend qu'aujourd'hui, des agents civils l'ont arrêté à son retour de Paris. Les motifs restent inconnus officiellement. Il serait lié aux récentes déclarations du romancier sur l'appartenance de certaines villes algériennes au Maroc. Boualem Sansal risque une lourde peine pour notamment atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays. Les points de blocage restent nombreux avant la fin théorique de la conférence climat de l'ONU. Ce sera demain soir en Azerbaïdjan. On ne sait toujours pas combien les Européens sont prêts à mettre sur la table pour aider les pays en développement. En France, les agriculteurs en colère continuent de manifester, parfois avec la manière forte. La coordination rurale, principal syndicat mobilisé sur le terrain, mène des actions dans le sud-ouest. Ces militants bloquent notamment le port de commerce de Bordeaux, 7e port de commerce en France. Nicolas Feldman, bonsoir, vous êtes sur place.
Oui, bonsoir. Et effectivement, la nuit est en train de tomber ici. Des petits feux de palette sont allumés. Les générateurs électriques sont de sortie. Le signe, veut-on croire, que le mouvement est parti pour durer. Depuis hier soir, ce sont en fait 3 accès au port de commerce de Bordeaux qui sont bloqués. Les tracteurs ont déversé à l'entrée des ronds-points des pneus, de la terre, des déchets agricoles. Résultat, eh bien, plus aucun camion n'entre ni ne sort du port. La coordination rurale, déjà mobilisée l'hiver dernier, attend désormais des engagements forts du gouvernement. Le syndicat porte 2 revendications. La première, c'est celle d'alléger les normes françaises pour les aligner sur celles des autres pays européens, car les agriculteurs le disent aujourd'hui, ils sont victimes de concurrence déloyale. Le syndicat veut aussi obtenir des baisses de charges pour les paysans et ainsi plus de revenus dans les fermes. Alors hier, certains représentants ont pu échanger par téléphone avec le Premier ministre, mais disent-ils, sans avancée concrète. Combien de temps resteront-ils ici? Le temps qu'il faudra, nous répond-on. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur avait promis la tolérance 0 en cas de blocage durable. Force est de constater que pour le moment, les gendarmes présents ici n'ont pas pour consigne d'intervenir. Les agriculteurs devraient donc passer leur nuit à bord de leur tracteur.
Nicolas Feldman en direct de Bordeaux, merci à vous. Enfin, en ce qui la concerne, la ministre de l'Agriculture en déplacement aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. La ministre a de son côté promis de s'attaquer au sujet des pesticides et à celui de la simplification. Ce sont 2 des grandes revendications des agriculteurs français. Voilà, c'est la fin du journal. Mais l'information continue sur RFI avec Décryptage.